RFI, 9h à Paris, 7h en temps universel.
Julien Coquel-Rohem.
Et un nouveau journal avec vous, Juliette Pietraszewski.
En Guinée, des réactions nombreuses après la sortie de prison de l'ancien dirigeant Moussa Dadis Camara, gracié par le général Mamadi Doumbouya. Il avait été condamné en juillet dernier pour crime contre l'humanité concernant le massacre du grand stade de Conakry. En Thaïlande et en Birmanie, après le séisme de vendredi, les secours multiplient les efforts pour rechercher des survivants. Le dernier bilan de la junte birmane est de plus de 1600 morts. La Birmanie en pleine guerre civile et qui attend l'aide internationale. En Corée du Sud, 30 personnes sont mortes dans les feux les plus destructeurs de l'histoire du pays. Un homme a été arrêté. On fera le point avec notre correspondante. Et puis en Turquie, une mobilisation qui ne faiblit pas. Hier à Istanbul, des centaines de milliers de personnes étaient dans les rues pour protester contre l'incarcération du maire de la ville, Ekrem İmamoğlu, principal rival du président Erdogan.
Guinée, des réactions après la grâce surprise de l'ancien dirigeant Moussa Dadis Camara.
Il est sorti de prison. La télévision nationale a diffusé des images de cette sortie hier soir. Moussa Dadis Camara a été gracié par le général Mamadi Doumbouya. L'annonce est tombée vendredi. Au pouvoir entre 2008 et 2009, il a été condamné le 31 juillet 2024 lors d'un procès historique à 20 ans de prison pour crime contre l'humanité dans le cadre du procès du massacre du 28 septembre 2009 au grand stade de Conakry. Depuis hier, les réactions se multiplient chez les ONG et les victimes du grand stade de Conakry. En résumé, c'est le choc, l'incompréhension. Fatoumatou Diallo a perdu son mari lors de ces événements et n'a jamais pu retrouver son corps.
C'est une mauvaise nouvelle. Ça m'a choqué. Moi, j'ai perdu mon mari, mais j'ai même pas retrouvé son corps. Je suis là avec les enfants, donc c'est pas du tout facile. C'est quelque chose qui n'est pas bien, surtout pour nous les victimes. En tout cas, franchement, moi, je suis choquée quand même, hein. Ouais, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Depuis qu'il est condamné, ça fait combien de mois? Ça fait même pas une année. Nous, les victimes, on est là. En tout cas, on souffre. Franchement, on souffre.
Fatoumata Diallo, propos recueilli par Lisa Fabian.
En Birmanie, des montagnes de décombres après le séisme dévastateur de vendredi. Le bilan s'élève à plus de 1600 morts mais risque encore de s'alourdir et l'aide internationale tente de s'organiser.
Oui, et ça prend du temps, notamment à cause de problèmes de visa. Les autorités birmanes ont lancé un appel à l'aide hier. Plusieurs pays ont répondu. Les Philippines, par exemple, ont annoncé l'envoi d'une équipe d'une centaine de personnes. La date de départ est fixée à mardi. La Birmanie est par ailleurs en pleine guerre civile. La situation humanitaire du pays était déjà critique depuis le coup d'État de février 2021 et le tremblement de terre a frappé l'une des places fortes de l'opposition au gouvernement militaire, la région de Sagaing. On en parle avec Carole Izou.
Dès le lendemain du coup d'État, la ville de Sagaing, à une vingtaine de kilomètres de Mandalay, s'est affirmée comme l'une des places fortes de la résistance aux militaires. Des groupes de jeunes gens venus des grandes villes du pays s'y sont rassemblés et constitués en groupuscules. On les appelle les PDF. Ils se sont peu à peu entraînés, puis armés. Ils étaient même parvenus à reprendre une partie du territoire à la junte. Le séisme vient remettre en cause ce fragile équilibre. Certains combattants craignent que la junte ne profite de l'état d'urgence humanitaire créée par le séisme pour reprendre le contrôle de tous les axes principaux du pays. Plusieurs témoignages publiés dans la presse d'opposition birmane font état de bombardements qui auraient repris dès les premières heures après le tremblement de terre sur les positions rebelles. Les organisations internationales sont donc appelées à la prudence dans la façon d'acheminer l'aide humanitaire afin de s'assurer que les fonds arrivent bien aux populations affectées sans discrimination politique.
Et la Thaïlande a elle aussi été touchée par ce séisme vendredi. Le bilan actuel fait état de 17 morts, dont 10 sur un chantier de construction. L'autorité de Bangkok a indiqué que 32 personnes avaient été blessées, 83 restaient portées disparues, ensevelies par l'effondrement d'une tour de 30 étages en construction.
Dans le reste de l'actualité asiatique, la Corée du Sud est des incendies meurtriers.
Selon le dernier bilan donné hier, 30 personnes sont mortes dans les feux les plus destructeurs de l'histoire du pays. Un homme a été arrêté, suspecté d'avoir allumé un feu le 22 mars dernier pour un rituel ancestral sur une colline du sud-est de la Corée. On retrouve notre correspondante Camille Ruiz en direct. Camille, vous vous êtes rendue dans un petit village d'une quarantaine d'habitants particulièrement touchés. C'est à 200 km au sud-est de Séoul.
Oui, et là-bas, les maisons sont comme éventrées, les gardes-mangers carbonisés. Il ne reste presque plus rien du petit village fermier de Myeongjin-i, seulement une odeur de brûlé et de plastique fondu. Quelques habitants sont venus constater les dégâts pour en parler aux autorités. Une femme nettoie la suie du manteau de son mari qui prend les décombres en photo. un autre villageois déambule à travers les débris de ce qui était sa maison. Le verre de ses fenêtres craque sous ses pieds. Les tôles qui formaient le toit sont éparpillées au sol. En fouillant un tas de cendres, il retrouve les os de ses poules qui, elles, ont été piégées par le feu. Alors, par miracle, hein, certaines terres ont été épargnées. Un peu plus loin, on peut voir trois hommes travailler, pulvériser des herbicides sur leurs jeunes pousses d'oignons. Ils retourneront ce soir au gymnase de la ville d'Andong, transformé en abri provisoire. Et puis à l'entrée du village, il y a cet arbre vieux de 600 ans et considéré comme une sorte de gardien qui veille sur les villageois. Il tient encore debout malgré son écorce noircie.
Camille Ruiz, notre correspondante en Corée du Sud.
Direction le Proche-Orient, le Hamas dit avoir accepté une nouvelle proposition de trêve à Gaza.
Une trêve présentée par les médiateurs du Qatar et de l'Égypte. Les armes de la résistance constituent une ligne rouge, a précisé hier un haut responsable du Hamas. De son côté, Israël indique avoir soumis une contre-proposition à ces derniers. Le Hamas a en effet accepté de restituer 5 otages, mais Israël en demande le double.
La Syrie a désormais un nouveau gouvernement.
Le président par intérim, Ahmad El-Shara, l'a annoncé hier soir. Dans ce gouvernement, pas de premier ministre, ses fidèles occupent les principaux postes. Le gouvernement se veut par ailleurs inclusif et compte une femme de la minorité chrétienne.
Et au nord-est de la Syrie, les détenus européens affiliés à Daesh au cœur d'une crise humanitaire et sécuritaire.
Ils sont actuellement enfermés dans des camps et des prisons kurdes, mais la fin du financement américain menace la stabilité de ces structures où vivent des milliers de membres de l'État islamique, dont plusieurs centaines sont originaires d'Europe. Avec la pression croissante sur des autorités kurdes, les Européens hésitent encore à rapatrier leurs ressortissants, Mohamed Erami.
Dans le camp d'Al-Hol, au nord-est de la Syrie, un détenu suisse que nous appellerons Fabien apprend stupéfait que l'ancien président Bachar al-Assad a fui en Russie et que Ahmed Shara, ex-leader de Jabhat al-Nusra, est devenu président de la Syrie. Ce trentenaire, originaire de la ville de Lausanne, qui avait rejoint Daesh en 2014 pour combattre Assad, ignorait complètement cette évolution politique. C'est nous qui lui annonçons la nouvelle. Cette rencontre a eu lieu au bureau des renseignements kurdes. Fabien décrit des conditions de détention qui se sont détériorées. Après 8 ans d'incarcération, l'homme explique avoir vu mourir de faim et de maladie de nombreux co-détenus. Avec 15 minutes de sortie par jour dans une petite cour, Fabien passe le reste de son temps dans sa cellule, confiné avec 25 autres prisonniers. Depuis 2017, il attend un signe de la Suisse pour son éventuel rapatriement. Privé de financement américain, il revient désormais au pays d'origine des détenus d'envisager un éventuel rapatriement ou, à défaut, de prendre en charge les coûts nécessaires pour maintenir l'activité des camps et prisons de Daesh du nord-est syrien. Mohamed Erami, Asaké, RFI.
En Turquie, la résistance est partout. Voilà ce qu'on pouvait lire hier sur des pancartes de centaines de milliers de manifestants dans les rues d'Istanbul.
Oui, un rassemblement à l'appel de l'opposition à Recep Tayyip Erdogan pour dénoncer l'arrestation du maire de la ville, Ekrem İmamoğlu. C'était il y a 10 jours. Depuis, une vague de contestation se fait entendre malgré une répression certaine. Près de 2000 manifestants ont été arrêtés depuis le début du mouvement. La Turquie a aussi confirmé l'arrestation d'un journaliste suédois pour terrorisme. Ce qui est sûr, c'est que c'est une manifestation hors norme qui s'est produite hier, une mobilisation qui devra se maintenir sur la durée selon Ahmet İnsel, éditeur, professeur retraité de l'université de Galatasaray.
Nous n'avons pas tellement l'habitude en Turquie des manifestations aussi longues, de longue haleine. La société turque n'a pas l'habitude de ce type de mobilisation. Pour le Parti républicain, c'est une nouveauté aussi et c'est grâce à la descente dans la rue le jour de l'incarcération de İmamoğlu, des étudiants qui a entraîné le Parti républicain du peuple à organiser des manifestations. Et donc, du coup, on découvre vraiment une nouvelle activité, une nouvelle modalité d'action du Parti républicain du peuple. Donc, du coup, c'est très difficile de faire des projections pour savoir si ça peut tenir la longue haleine ou si ça peut s'effilocher dans le temps.
Ahmet İnsel, professeur retraité de l'université de Galatasaray. Autre manifestation en Serbie, plusieurs milliers de personnes ont répondu présents à l'appel des étudiants hier. Un rassemblement pacifique pendant 6 heures devant la rédaction du principal média pro-régime à Belgrade. Les étudiants de sciences politiques, dont certains ont été insultés nommément dans ce média, avaient récemment désigné cette télévision comme leur adversaire. La correspondance de Laurent Rouy.
Devant le siège de la télévision Informer, le boulevard est bloqué par les manifestants. Rien qu'en 2024, Informer, qui défend sans réserve le président Vučić, a fait l'objet de 647 signalements pour infraction à la déontologie. Un étudiant harangue la foule.
Il faut Informer cible constamment ceux qui pensent différemment, les qualifie de traîtres, d'agents payés par l'étranger, d'ennemis de l'État.
Étudiant en sciences politiques, Maxime tient un stand et fait signer une pétition.
Nous demandons à ce que les autorités retirent sa fréquence à la télévision Informer, car leurs infractions à l'éthique journalistique, à la loi, ont atteint des proportions astronomiques. Le journalisme se doit d'être objectif.
Dans la foule, Ivan, un électricien de 47 ans, avait été choqué par une information mensongère diffusée sur cette chaîne pendant une manifestation récente.
Ils avaient dit qu'un étudiant avait frappé un policier avec un poing américain. Et à la fin, on a su que ce policier avait été blessé par un autre policier. Les criminels, ils sont à la télévision Informer. La vérité, ça les dérange.
La pétition n'a aucune chance d'aboutir, tant cette chaîne est un pilier de la propagande du régime du président Vučić. Le soir même, la présidente du Parlement a fustigé une pression inacceptable et dénoncé une violence contre la télévision. Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
Depuis le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump, Elon Musk, patron de Tesla, fait lui aussi beaucoup parler de lui. Depuis un mois et demi, on observe des rassemblements devant les concessions Tesla, le mouvement de contestation Tesla Takedown, démantèlement de Tesla. Hier, c'était la première journée d'action du mouvement à l'échelle de la planète. En Allemagne, une mobilisation a eu lieu devant la seule usine Tesla en Europe, près de Berlin, où Elon Musk avait décidé d'acheter 300 hectares de forêt pour tout raser et y construire une usine grande comme 70 terrains de football. Reportage de Ludovic Piétenu.
Ils n'étaient pas très nombreux, une vingtaine tout au plus, mais ce sont des anti-Elon Musk de la première heure, comme Manu.
C'est le combat de David contre Goliath. Nous luttons contre cette usine depuis la fin de 2019 et nous n'avons que peu d'options. On jette du sable dans les engrenages, mais j'aimerais quand même que cette usine ferme bientôt.
Comme Manu, Aiko était de la première manifestation.
Il y a encore un an, on se disait que manifester ne servait plus à rien. Lorsque la politique et les affaires sont d'accord, ils s'en sortent. On ne pèse plus rien. Mais maintenant, ça a l'air complètement différent.
Ce mouvement Takedown Tesla leur redonne espoir et Roland pense à l'après.
Avec une action de protestation mondiale, cela fait chuter les actions. Tesla pourrait bien finir comme Nokia. C'est aussi un peu stupide parce que des emplois sont concernés. Il y aura des chômeurs.
11 000 personnes travaillent dans cette usine et fabriquent le modèle Y, la voiture la plus vendue en Europe et dans le monde en 2023. Un an plus tard, les ventes s'effondrent. À part en rêve, aucun manifestant n'imaginait un tel scénario. Ludovic Piétenu, Berlin, RFI.
Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi.
Et merci à vous, Juliette Pietraszewski. RFI Matin continue. Et la suite, c'est un nouveau journal dans moins de 20 minutes. D'ici là notamment, on met le cap sur Marseille quand un festival met à l'honneur les musiques traditionnelles du monde, notamment pour éviter leur récupération politique par les conservateurs. C'est notre reportage culture dans quelques minutes. Mais tout de suite, la revue de presse. Avec vous, Catherine Potet, le tour des hebdomadaires et des journaux du dimanche et à la une, la stratégie du Kremlin en Ukraine.
L'Express a interrogé cette semaine Dmytro Kuleba, ancien ministre ukrainien des Affaires étrangères. Il l'était jusqu'en septembre 2024. Un œil avisé auquel l'hebdomadaire a demandé son analyse sur les négociations en vue d'un cessez-le-feu avec la Russie. Un œil avisé et guère optimiste. S'il l'emporte, dit-il, Poutine n'aura aucune pitié pour un pays qui a osé lui résister. En réalité, ajoute l'ancien ministre, Poutine n'a pas besoin d'un cessez-le-feu, il veut mettre fin à cette guerre à ses conditions. Dmytro Kuleba précise aussi qu'il fait partie d'un courant qui juge que le Kremlin ne veut pas seulement un morceau de territoire, mais toute l'Ukraine, et que ses ambitions ne s'arrêtent pas en Ukraine, mais concernent aussi l'Europe. L'ancien ministre n'y va pas par quatre chemins. Bien sûr, dit-il, on aura du mal à faire croire aux Français que l'armée russe va franchir leurs frontières demain et marcher sur Paris. Mais ils peuvent se réveiller un matin et découvrir que des infrastructures cruciales de leur pays, centrales nucléaires, gares ferroviaires ou encore bases militaires, ont été frappées par des drones à longue portée non identifiés. La Russie dira que ce n'est pas elle. C'est ainsi que la guerre pourrait démarrer, estime Dmytro Kuleba.
En France, Marine Le Pen à la veille d'un jugement décisif.
C'est en effet demain que la chef du Rassemblement National sera fixée sur son sort dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Front National. Menacée d'inéligibilité, elle joue son avenir politique, annonce la Tribune dimanche, à qui Marine Le Pen a confié qu'elle n'était pas fébrile. tout en ajoutant qu'avec l'exécution provisoire, les juges ont le droit de vie ou de mort sur le Rassemblement national. Avec l'exécution provisoire de sa peine, Marine Le Pen deviendrait en effet inéligible, y compris pour la prochaine élection présidentielle en 2027, pour laquelle elle fait souvent figure de favorite. Le Journal du Dimanche publie d'ailleurs un sondage la créditant de 37% d'intention de vote dans l'hypothèse la plus favorable, soit 10 points de plus que son score du premier tour en 2022. Dans son éditorial pour la Tribune Dimanche, Bruno Jeudy s'interroge « N'est-il pas hasardeux, voire périlleux, de confier à des juges le soin de déterminer la capacité de tel ou tel candidat à se présenter devant les électeurs ?» Et la tourmente judiciaire ne concerne pas la seule Marine Le Pen, remarque Bruno Jeudy. Cette semaine, la foudre s'est abattue sur Nicolas Sarkozy avec les 7 ans de prison requis pour le financement de sa campagne présidentielle de 2007 par le pouvoir libyen de Kadhafi.
La justice française remise en cause, mais le nouvel Obs prend sa défense.
Elle monte, la petite musique anti-juge. Elle devient même assourdissante à mesure que le bruit de fond autoritaire s'impose toujours plus dans nos démocraties, estime Cécile Prieur dans son éditorial. Plus une semaine sans qu'une décision judiciaire ne soit conspuée sur les plateaux télé, sans que le nom d'un magistrat ne soit jeté en pâture sur les réseaux sociaux, sans que des menaces ne soient proférées dans les tribunaux. Or, poursuit Cécile Prieur, contester le bien fondé du travail des juges au nom de la souveraineté populaire, c'est saper la séparation des pouvoirs, l'un des piliers de notre démocratie. C'est prétendre que l'élection prime sur toute autre légitimité, c'est favoriser la loi du plus fort. Le Nouvel Obs a recueilli les propos d'un juge plein de colère. Taper sur la justice est devenu un sport national, dit-il, plus haut, plus fort et personne ne bouge. Au sujet de l'affaire Marine Le Pen, ce magistrat ne se fait guère d'illusions. Quoi qu'il arrive, on va encore s'en prendre plein la gueule.
Enfin, Chimamanda Ngozi Adichie publie un nouveau livre.
Plus de 10 ans après Americana, annonce le Nouvel Obs, l'écrivaine nigériane revient à la fiction avec un grand roman sur les rêves empêchés de 4 femmes, dont l'une est inspirée de Nafissatou Diallo, qui avait accusé Dominique Strauss-Kahn d'agression sexuelle. Quand j'ai entendu parler de cette femme de chambre guinéenne, raconte Chimamanda Ngozi Adichie, j'ai immédiatement ressenti une connexion, une femme d'Afrique de l'Ouest vivant aux États-Unis, cela m'était familier. J'avais l'impression de la connaître, de la comprendre. J'ai suivi l'affaire Strauss-Kahn de très près, frappée par le gouffre presque dramatique entre elle et lui en termes de pouvoir. Mon rêve est qu'elle obtienne justice, ajoute l'écrivaine nigériane, mais cela n'arrivera probablement jamais. En tout cas, précise-t-elle, l'idée même d'humaniser un personnage par le biais de la fiction consiste à lui rendre sa dignité. Je ne parle pas seulement de Nafissatou Diallo, il s'agit de rendre leur dignité aux femmes du monde entier qui ont été déshumanisées parce qu'elles n'ont pas de pouvoir.
Catherine Potet pour la revue de presse. Merci beaucoup. L'actualité politique en France, comme chaque dimanche, et alors que demain Marine Le Pen connaîtra le verdict du procès des assistants parlementaires européens du Rassemblement National, dans lequel elle risque une peine d'inéligibilité qui pourrait entraver sa candidature en 2027. À gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon qui voit ressortir un dossier présentant des similarités avec cette affaire explosive. Bonjour Aurélien de Vernois.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Le quotidien Libération révèle un rapport de l'Office européen de lutte antifraude, l'OLAF, dont les conclusions notent des manquements et des irrégularités dans la gestion de ses assistants, à l'époque où le leader insoumis était eurodéputé.
Oui, et ce rapport pose en particulier la question du rôle des assistants parlementaires de Jean-Luc Mélenchon alors qu'il siégeait au Parlement européen entre 2009 et 2017. Si la réalité de leur travail ne fait pas de doute, contrairement au dossier du Rassemblement National, la traçabilité de leur activité pose problème selon l'OLAF, en particulier pour 2 de ses assistants sur la 20aine qu'a employé le leader insoumis au fil des années. Au total, le coût de ces manquements pourrait s'élever à 500 000 euros selon le rapport. Interrogé par l'OLAF en 2020, Jean-Luc Mélenchon a admis qu'il lui était matériellement impossible de justifier le travail de ses assistants au quotidien et expliqué qu'il ne gérait de toute façon pas directement son enveloppe de frais de mandat.
Mais la France insoumise affiche son étonnement.
Pourquoi ce rapport qui date de 2021 est-il révélé cette semaine à quelques jours du verdict verdict du procès Le Pen, fait-on mine de s'interroger dans les rangs insoumis. Un timing qui pose question, selon une source dans le parti, qui déplore que les personnes mises en cause n'ont pas été contactées par Libération. Le quotidien accusé de servir l'agenda du Rassemblement national. L'évocation du dossier Mélenchon pourrait permettre de relativiser le verdict du procès de Marine Le Pen, selon des insoumis, en noyant les pratiques du mouvement d'extrême droite dans un océan d'actions plus ou moins similaires des autres partis français. LFI qui rappelle que la procédure a d'ailleurs été déclenchée à la suite d'un signalement en 2017 de l'eurodéputée RN Sophie Montel.
Et à gauche, Aurélien, un certain malaise règne sur le sujet.
En effet, un eurodéputé socialiste admet que le rôle des attachés parlementaires, notamment ceux chargés de la presse, est toujours un peu flou, même si pour lui, le dossier explique peut-être pourquoi Jean-Luc Mélenchon a toujours été très prudent concernant le procès intenté à Marine Le Pen. Son collègue écologiste David Cormand estime que les deux cas ne sont pas comparables et que surtout aucune poursuite n'est formellement engagée alors que les faits reprochés sont anciens. Il faut que la justice fasse son travail, poursuit-il, tout en s'étonnant lui aussi du moment de la révélation de ce rapport.
Aurélien de Vernois, merci beaucoup.
Écoutez tous nos podcasts sur l'application RFI Pure Radio.
Jusqu'où va la science ? Bonjour Caroline Lachowski.
Bonjour Julien.
Et aujourd'hui, la science nous emmène jusqu'au point de l'océan le plus éloigné de toutes les terres émergées, un pôle maritime d'inaccessibilité, calculé par les scientifiques et baptisé le point Nemo.
Nemo, comme le célèbre capitaine Nemo de Jules Verne. Nemo qui veut dire personne en latin. Et il n'y a effectivement personne à des milliers de kilomètres à la ronde en plein océan Pacifique Sud. L'îlot habité le plus proche est à 2 700 km. Et les humains qui s'en sont le plus approchés sont les astronautes de la Station Spatiale Internationale, en orbite à 416 km seulement au-dessus de ce point Nemo. Pendant longtemps, les océanographes, les géographes ont cherché à déterminer la localisation exacte de ce qu'on appelle le pôle maritime d'inaccessibilité, le point le plus éloigné de toute terre émergée. C'est un ingénieur, géomètre et informaticien canadien d'origine croate, Voj Lukatela, qui a réussi en 1992, grâce à de savants calculs et surtout à un logiciel complexe de son invention, à le localiser en appliquant notamment la théorie du cercle du vide en mathématiques. Le point Nemo, c'est Lukatela qui l'a baptisé ainsi, est exactement au milieu de ce cercle du vide océanique, situé très exactement à la latitude 48°52.6 sud et à une longitude de 123°23.6 ouest. Vous pouvez taper ces chiffres dans votre GPS et vous verrez que le point Nemo est à équidistance de trois petites îles du Pacifique, trois cailloux, situées à 2688 km de ce point. Au nord, l'atoll d'Ulci avec Pandora, l'île des révoltés du Bounty. Au nord-ouest, le petit îlot chilien Motunui à côté de l'île de Pâques. Et au sud, le minuscule îlot Maher au large du continent Antarctique. Un grand cercle maritime d'inaccessibilité, redouté notamment par les skippers du Vendée Globe, mais aussi par tous les marins en route vers le Cap Nord, car il leur faudrait attendre une quinzaine de jours pour que des secours puissent atteindre cette zone de l'océan la plus éloignée de toute terre émergée.
Dans ce cas, cela veut-il dire que ce point Nemo est déserté de toute présence humaine ?
Détrompez-vous, car c'est précisément son étendue et son éloignement de toute terre émergée qui en ont fait un parfait cimetière pour les débris spatiaux. Cette gigantesque zone, ce cercle du vide autour du point Nemo, appelé SPOA, c'est l'acronyme de South Pacific Ocean Uninhabited Area, est la zone idéale pour l'amérissage des engins spatiaux en fin de vie. Il faut bien s'en débarrasser, n'est-ce pas? Et sur Terre, ça peut être dangereux. C'est donc là, loin de tout et de tous, hors de toute juridiction nationale, au beau milieu du Pacifique Sud, que gisent les restes de la station spatiale russe Mir, aux côtés de quelques 300 morceaux d'épave spatiale américaine, européenne ou japonaise. Et vous savez quoi ? C'est là aussi que finira l'ISS, la Station Spatiale Internationale, au fond du Pacifique Sud. Désorbitage prévu pour janvier 2031, juste au-dessus de ce fameux point Nemo, le point le plus éloigné de toute terre émergée.
Jusqu'où va la science ? Merci Caroline Lachowski. Et bientôt 7h30, en temps universel, avant le prochain journal, notre reportage culture qui nous emmène à Marseille, aujourd'hui la grande ville du sud de la France, qui accueille chaque année le festival Babel Musique XP, dédié aux musiques traditionnelles du monde entier. Une volonté de refléter la diversité et la vitalité de ces genres, tout sauf figés, pour empêcher aussi qu'ils ne soient récupérés à des fins politiques. Reportage, Olivier Roger.
Chants ancestraux syriens, rites populaires galiciens, violons limousins ou encore harpes coréennes, à Babel Music XP, la tradition tient le haut de l'affiche, mais une tradition vivante, évolutive et connectée à son époque. Pour Olivier Ray, le directeur du festival, les musiques traditionnelles ne doivent pas être figées dans un passé mythifié.
On se rend compte qu'il y a des jeunes générations qui s'emparent des musiques traditionnelles et qui ont une expression extrêmement contemporaine. Et donc cette démarche-là, elle est extrêmement importante parce qu'elle permet à la fois de travailler la dimension traditionnelle et patrimoniale, mais de ne pas la laisser en friche pour des pouvoirs politiques qui auraient juste des idées. Les conservateurs ont vite fait de procéder à de la récupération notamment des traditions et d'un fantasme d'une tradition épurée, c'était mieux avant, etc., etc.
Explorer l'avant-gardisme à l'aide du passé, c'est l'enjeu que se sont fixés les deux coréennes, Ah Soo-yeon et Wang Yeyung, virtuoses d'instruments à cordes dont l'origine remonte à plus de 10 siècles. Ah Soo-yeon.
En fait, pour moi, notre musique est avant tout de la musique traditionnelle modernisée. Nous faisons de la musique coréenne contemporaine, mais parfois nous y ajoutons des éléments de musique traditionnelle. À d'autres moments, nous mettons dans nos morceaux juste nos sentiments et nos émotions.
Cette liberté de manœuvrer dans le temps, on la retrouve chez les Albanais de Shkodra Electronic, qui propulsent la musique Shkodra de leur ville natale dans l'ère des logiciels, un électrofolk transgressif et jouissif à la fois. Kole Laka est le compositeur du groupe.
La musique traditionnelle chez nous est toujours très vivante. Ce n'est pas une musique que personne n'ose toucher ou qu'il ne faudrait pas bouger. Non, en fait, on la bouge tous les jours, cette musique. Peu importe la façon dont les groupes jouent les standards, chacun peut s'en emparer et les interpréter à sa sauce.
À l'ère du repli sur soi et du conservatisme, Babel Music XP démontre que la fraîcheur et l'ouverture d'esprit habitent plus que jamais les musiques dites traditionnelles.
D'Albanie, Shkodra Electronic dans notre reportage culture au festival Babel Music XP à Marseille. Merci Olivier Roger. Et dans une minute, le journal. A tout de suite.
L'atelier des médias, Steven Jambeau.
Mi-mars, aux Assises internationales du journalisme, j'ai animé une grande table ronde qui avait pour intitulé « Plateforme, comment résister à la manipulation de l'information ?» En cette semaine de la presse et des médias dans l'école, je vous propose d'en écouter quelques extraits portant sur les solutions pour passer à l'action, parmi lesquelles l'éducation aux médias. Rendez-vous tout à l'heure à 11h10 TU sur RFI et dès maintenant en podcast pour l'Atelier des médias.
Tout à l'heure sur RFI, idées,
Pierre-Edouard Deldic.
Avec la revue Esprit et sa directrice Anne-Lorraine Bujon, nous allons parler de l'actualité de la pensée du philosophe français Maurice Merleau-Ponty.
C'est une figure déjà en fait très contemporaine dans cette volonté de surmonter les dualismes nature-culture, sujet-objet, homme-animal, voilà.
Idée proposée par Pierre-Edouard Deldic tous les dimanches à 17h10 TU sur RFI.